diffusée tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h. Les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Christine Robert avec Alain Benoît à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Camille Lugan, Avril Ventura, Adèle Van Rett. Adèle, que ses fans retrouvent tout à l'heure à 10h50 pour le journal des Nouveaux Chemins, en compagnie aujourd'hui de Lucien Jaume, qu'on avait déjà reçu pour parler de Tocqueville et qui viendra tout à l'heure s'interroger pour vous sur ce qu'est l'esprit européen. Et c'est le début, ce lundi, d'une semaine sur le scepticisme dans les nouveaux chemins de la connaissance. De Sextus Empiricus à Jules Verne, en passant par Montaigne, Pascal, Proust, ne comptez pas sur nous pour vous dire ce qu'est le scepticisme, puisque c'est en sceptique, évidemment, que nous abordons cette question. Demain mardi, avec Frédéric Brahami, nous parlerons de Montaigne et de son fameux « Que sais-je » qu'il promène comme un miroir le long des chemins. Mercredi, Sylvia Giocanti vous fera passer des essais de Montaigne aux pensées de Pascal, ce qui nous permettra peut-être de nous poser la question de savoir dans quelle mesure le scepticisme est soluble dans la foi. Jeudi, nous irons du scepticisme mitigé de David Hume aux intuitions de la physique quantique, rien de moins. Et vendredi enfin, on terminera la semaine en invitant un climato-sceptique, comme on dit, pour nous parler du réchauffement qui refroidit, selon l'heureuse expression de Pascal Bruckner.
Le sceptique, du fait qu'il aime l'humanité, veut guérir par la puissance de l'argumentation la présomption et la précipitation des dogmatiques. De même que les médecins ont pour les affections corporelles des remèdes différents en importance et prescrivent des remèdes sévères à l'égard de ceux qui sont sévèrement atteints et des remèdes légers à l'égard de ceux qui sont légèrement atteints, de même le sceptique adresse lui aussi des arguments qui diffèrent en force. Il a recours à des arguments de poids et capable de détruire vigoureusement cette affection des dogmatiques qu'est la présomption à l'égard de ceux qui sont atteints d'un sévère mal de précipitation. Mais il emploie des arguments plus légers à l'égard de ceux qui sont affectés d'une présomption superficielle et facile à guérir et qui peut être détruite par des persuasions plus légères. C'est pourquoi celui qui est porté au scepticisme n'hésite pas à proposer des arguments qui parfois sont de poids quant à leur persuasion, et parfois semble plus faible. Il le fait à dessein, parce que souvent ceux-ci lui suffisent pour arriver à son but.
Guillaume Di, vous êtes notre invité aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors si vous êtes notre invité, c'est parce qu'on commence la semaine avec la question du scepticisme antique. C'est dans l'Antiquité qu'on va emmener l'auditeur aujourd'hui. Vous enseignez à l'Université libre de Bruxelles et votre thèse porte précisément sur l'esprit du scepticisme dans l'Antiquité. On a donné à entendre, Guillaume Di, un texte de Sextus Empiricus, extrait des esquisses pyrrhoniennes. Mmh. Il faudra resituer, évidemment, qui sont ces obscurs célébrissimes que sont Sextus Empiricus ou Pyrrhon. Un texte qui donne le sentiment, et c'est de là qu'on va partir, qui donne le sentiment que, à la différence du scepticisme, j'allais dire moderne, qui se caractérise par une concentration sur des problèmes théoriques, le scepticisme antique, dont nous partons aujourd'hui, donc, est d'abord une sagesse. D'abord, il s'occupe d'éthique, et puis surtout, il s'exprime dans une certaine façon d'accomplir sa vie. En général, on demande aux philosophes, on dit « mais à quoi sert la philosophie ?» Alors, le plus souvent, on répond « bah ça sert à rien, dans la mesure où la philosophie ne sert pas à mieux vivre sa vie. » Il faut arrêter avec ce cliché. Or, il y a bien un moment où le cliché est recevable, c'est quand on parle du scepticisme, comme du stoïcisme antique d'ailleurs, Guillaume Di.
Tout à fait. Nous sommes là dans une époque où être philosophe, c'est vivre en philosophe. Et Pierre Hadot, notamment, dans ses travaux, a insisté sur ces questions-là de manière tout à fait importante. On le voit ici précisément, l'objectif du scepticisme, c'est un objectif de guérison de l'âme. Sextus Empiricus était médecin. Il a vécu, mettons grosso modo, entre 150 et 200 après Jésus-Christ. Il est médecin, donc en tant que médecin, il soigne le corps, mais il est également philosophe. Et en tant que philosophe, il soigne l'âme, pourrait-on dire. Et il le fait précisément à l'aide d'arguments. à l'aide de logoi, comme on dit, à savoir de paroles raisonnées et argumentées. Ce que dit le texte, avec une légère traduction, une traduction un peu différente de celle qui est proposée, c'est que le sceptique, autant qu'il le peut, veut guérir par l'argumentation, la présomption et la précipitation des dogmatiques. Autrement dit, les faire parvenir à une forme de suspension de l'assentiment dont découlera, nous en parlerons plus tard plus en détail peut-être, la tranquillité, l'ataraxie, littéralement l'absence de trouble. L'objectif donc du sceptique est d'utiliser les arguments comme des médicaments finalement, en adaptant la médication à la gravité du mal dont souffre le dogmatique.
Vous avez cité Pierre Hadot, hein. Parlons-en un tout petit peu, puisque Pierre Hadot est ô combien sensible justement à cette idée d'une philosophie vivante qu'il conçoit comme un exercice spirituel. Pierre Hadot est notamment l'auteur de « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» qui est une introduction vraiment magistrale aux problèmes qu'on pose aujourd'hui, comme à tous les autres d'ailleurs. Qu'est-ce que la philosophie antique ? C'est chez Folio, c'est dans la collection Essai. Revenons sur ce que vous dites. En quoi, Guillaume dit, la suspension du jugement peut-elle constituer une voie nécessaire vers le bonheur ? En quoi n'est-il pas à la fois l'effet de l'inquiétude et inquiétant en soi de suspendre son jugement ?
C'est effectivement l'aspect très paradoxal du scepticisme. Alors là-dessus, le sceptique raconte une petite histoire, je dirais, expliquant qu'au départ, le sceptique cherchait à découvrir la vérité, un peu comme les dogmatiques, il cherche à découvrir ce qui est vrai, ce qui est faux, de manière donc à pouvoir trancher entre des apparences discordantes. Et puis, il lui arrive une expérience différente de celle du dogmatique. Il ne trouve pas la vérité. Au contraire, il se rend compte qu'il a une capacité inattendue, celle d'opposer à chaque argument un argument égal. Et ce faisant, il est donc contraint de suspendre son assentiment, de ne pas donner son suffrage, je dirais, à telle ou telle apparence, mais de suspendre l'assentiment sur ce que sont réellement les choses. Et là, se passe donc de manière inattendue, par chance, dit Sextus, la tranquillité, l'absence de trouble. Parce que Sextus l'explique plus en détail dans un texte qui sera peut-être lu tout à l'heure, celui qui justement ne détermine rien reste dans la tranquillité et n'est pas gêné par l'opinion ajoutée qui le troublerait.
Alors, il n'est pas gêné par l'opinion ajoutée qui le troublerait. Cette quiétude mentale, donc, est l'effet d'une aptitude à opposer les choses qui apparaissent, aussi bien que celles qui sont pensées, à leur opposer, pardonnez-moi, des arguments équivalents. Qu'est-ce qui distingue dans ces conditions le sceptique, le médecin sceptique, qui se propose donc de guérir bizarrement par, j'allais dire, l'absence de remède ? Qu'est-ce qui distingue le sceptique du sophiste ? Du sophiste tel que Platon le combat, c'est-à-dire le sophiste qui est en mesure, à la fin d'une démonstration, tout simplement d'effectuer la démonstration inverse, et dont l'enseignement repose justement sur apprendre à démontrer toute chose.
Dans le cas du sceptique, je dirais qu'il y a quand même une adhésion, finalement, a priori, au principe de non-contradiction. C'est justement parce qu'il fait du principe de non-contradiction l'un des piliers de sa méthode qu'il est capable, précisément, de s'opposer au dogmatique. Quant aux raisons qui font, effectivement, que le sceptique sera plus tranquille, je crois qu'il faut là aussi, de façon assez inattendue, rapprocher les sceptiques des stoïciens qui sont pourtant leurs adversaires principaux. Si vous le lisez tout simplement le début du manuel d'Épictète, on nous explique qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Et on nous dit aussi que les hommes sont troublés, non pas par les choses elles-mêmes, mais par les jugements qu'ils portent sur les choses. Et on nous dit que les jugements que l'on porte sur les choses, précisément, sont en notre pouvoir, on peut précisément les changer. Or, ce que dit précisément Sextus, c'est que ces jugements-là, qui donc trouble l'homme, ces jugements ajoutés qui, pour le stoïcien précisément, trouble l'homme, eh bien le sceptique, lui, les élimine d'une manière différente de la manière stoïcienne. Il les élimine précisément par sa capacité à proposer des arguments de force égale qui conduisent à l'époque, hein, la suspension de l'assentiment.
Mais cette suspension de l'assentiment, encore une fois, il faudrait savoir par quelle grâce, par quel miracle, elle provoque la tranquillité, la sérénité. Tiens, on va écouter quelqu'un qui, justement, suspend son assentiment, mais que ça inquiète, c'est Émilie Loiseau. Elle ne sait pas choisir, écoutez-la.
« seul, je me dis Dieu, ce serait bon de partager mon lit avec un garçon. Quand je partage mon lit avec un garçon, je me dis dormir toute seule, Dieu, ce serait bon. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant. C'est tellement troublant. Laissez-moi dormir. Quand chez l'Indien, je prends un poulet tikka.
Guillaume Dit est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance à l'orée d'une semaine sur le scepticisme. Et c'est du scepticisme antique que nous parlons aujourd'hui.
Je me dis, j'aurais dû prendre végétarien. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir. C'est bien embêtant, je vous le fais pas dire. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir. C'est tellement troublant, laissez-moi dormir.
Guillaume Dit, hein, elle ne sait pas choisir, c'est bien embêtant, c'est troublant. Elle ne nous le fait pas dire, on la comprend d'ailleurs. Dans quelle mesure, hein, encore une fois, la suspension du jugement n'est pas tout simplement l'effet d'un trouble de la décision, à l'image de quelqu'un qui, allant au restaurant, reste trois quarts d'heure devant une carte, incapable qu'il ou elle est d'ailleurs de choisir.
Alors là, il faut préciser le domaine de définition de ce que l'on appelle la skepsis, donc l'activité que pratique le sceptique. La skepsis, c'est évidemment une recherche théorique. Le terme, au départ, d'ailleurs, ne désigne pas directement l'activité sceptique. C'est le nom d'action de skeptomai, donc cela veut dire examiner, considérer attentivement un problème. Cela désigne uniquement des problèmes théoriques. On ne parlera jamais de skepsis en grec pour une délibération pratique. Donc, c'est vraiment uniquement sur les questions théoriques, sur les questions pratiques.
Mais dont les applications pratiques, dont les incidences pratiques sont immédiates, oui, en tout cas prétendent l'être.
Sur les questions... Il y a deux choses. Il y a d'une part la lutte contre le trouble, qui là effectivement passe par la skepsis, et pour l'action, je dirais, commune dans la vie de tous les jours, eh bien le sceptique affirme simplement vivre un peu comme tout le monde et suivre les apparences et les conceptions communes.
Voilà, parce que ça, c'est une objection classique qu'on formule à l'endroit du sceptique. Aristote, par exemple, hein, dit ceci. Pourquoi, si au point du jour, il rencontre un puits ou un précipice, n'y marche-t-il pas? Mais pourquoi le voyons-nous au contraire se tenir sur ses gardes, comme s'il pensait qu'il n'est pas également bon et mauvais d'y tomber? On peut objecter au sceptique le fait qu'il vive comme tout le monde, de la même façon, d'ailleurs, qu'on peut objecter au fataliste le fait qu'il regarde avant de traverser la rue. Pourquoi le fait-il? Est-ce que le comportement, en l'occurrence, ne désavoue pas une doctrine, je mets le mot entre guillemets, ou une antidoctrine peut-être, qui justement, dont le tort serait justement de vouloir dicter des comportements.
C'est l'argument qui est le plus souvent opposé aux sceptiques dans l'Antiquité, et c'est l'argument que Sextus rejette avec force régulièrement en disant « Ceux qui disent que nous rejetons les choses apparentes ne me semblent pas avoir écouté ce que nous disons. » Alors, évidemment, la question est complexe parce que nous sommes pris face à un dilemme, finalement. Soit on a l'impression que le sceptique a des croyances, je dirais, et là n'est plus vraiment sceptique, soit il n'a pas de croyances, et comment peut-il vivre? Alors évidemment, cela impliquerait une très longue et technique discussion sur ce que c'est qu'avoir une croyance. Le sceptique, lui, considère simplement qu'il, pour faire simple, on va dire, s'attaque essentiellement aux croyances dogmatiques, à savoir les croyances théoriques et philosophiques, ou celle, on va dire, de ses collègues médecins dogmatiques. Pour le reste, il vit tout simplement comme vivrait chacun d'entre nous. On n'agit pas forcément pour des théories ou avec des théories qui expliquent derrière cela pourquoi nous faisons telle ou telle chose. On agit effectivement en partie parce que nous sommes, je dirais, instinctivement, nous agissons de telle ou telle manière. Nous sommes également capables de suivre les traditions et les coutumes. Nous pouvons éventuellement aussi apprendre les arts, hein, tout à fait permis, ça dépend. On peut également, par ailleurs, penser et réfléchir pour une délibération pratique. Ce n'est pas exclu par le sceptique.
Donc, en somme, le sceptique est celui qui n'exclut rien en suspendant son jugement, c'est-à-dire il n'exclut également aucun jugement.
D'une certaine façon, la suspension de l'assentiment est en fait le fruit d'une recherche déterminée Et elle a besoin, je dirais, d'être réhabilitée régulièrement parce que, bon, on suspend l'assentiment, mais simplement en ayant opposé deux arguments déterminés et précis et pas des théories générales. Donc finalement, effectivement, le sceptique n'a pas de certitude, je dirais, sur l'avenir de sa recherche qui pourrait effectivement, qui sait à terme, le conduire dans tel ou tel dogme.
Est-ce qu'on peut considérer que le sceptique agit comme la justice au bénéfice du doute ?
Oui, pourquoi pas. Après, on peut parler d'une morale par provision, si l'on veut, pour...
Reprendre l'expression cartésienne.
Voilà, exactement, hein, tout à fait. Après tout, oui, tout à fait possible.
Alors Descartes, on ne va pas parler de Descartes, enfin, on ne consacrera pas cette semaine une émission à Descartes, on pourrait le faire sur le scepticisme de Descartes, à double titre. Hein. Il y a ce cheminement du doute, notamment au début des méditations métaphysiques, un doute qui se renverse sur lui-même. De bons commentateurs, d'ailleurs, ont dit que Descartes faisait semblant de douter, puisqu'il ne doutait pas que son doute finirait par se renverser en une certitude sur laquelle il pourrait reconstruire ensuite d'autres certitudes. On pourrait également évoquer le Descartes du discours de la méthode, qui, dans le doute, avant d'avoir l'édifice de la vérité, se propose tout simplement de suivre posément, calmement, les coutumes des pays où il se trouve. Est-ce qu'on est là dans une position...
C'est exactement ce que fait Sextus, finalement. C'est exactement ce que fait Sextus pour la morale par provision. En revanche, évidemment, le doute cartésien, le sceptique chez Descartes est en fait une figure théorique, virtuelle. Ce n'est pas un sceptique réel, alors que chez Sextus, en revanche, nous avons bel et bien un sceptique. Non pas qu'il doute au sens où sa marge de manœuvre serait de proposer des doutes ou des incertitudes, mais au sens où il est dans l'aporie, dans l'impasse sur les problèmes qu'il examine.
C'est-à-dire que vous avez parlé d'aporie, c'est le mot grec pour désigner l'impasse. Le problème sceptique, donc, se pose véritablement en termes d'aporie et d'assentiment, d'impasse et d'acceptation. On peut dire ça comme ça.
Oui, l'assentiment, ça suppose un acte de volonté. Donc, ce n'est pas simplement une impression, une idée passive que l'on reçoit, ça suppose de la volonté. Donc, évidemment, lorsqu'on est dans l'aporie, on est incapable de donner son assentiment, son suffrage, donc à telle ou telle idée contradictoire, puisque les arguments pour l'idée A et les arguments pour l'idée B sont de force absolument égale et tout à fait opposées.
Mais que vaut alors évidemment l'objection classique qu'on formule contre les sceptiques, selon laquelle les sceptiques adhèrent à l'idée A prime, selon laquelle on ne doit adhérer, ou plus exactement, il serait dogmatique d'adhérer à A ou à B? Est-ce qu'il n'y a pas un dogme sceptique qui consiste à revendiquer justement la position sceptique ?
Là, Sextus décrit les choses d'une manière quasiment causale. Le fait que j'ai des arguments opposés qui soient face à moi m'oblige, me conduit, enfin m'empêche littéralement, physiquement, de donner mon assentiment à l'une ou l'autre des impressions. Si je le faisais, je serais finalement malhonnête ou présomptueux ou précipité parce que je n'aurais pas suffisamment examiné ce qui me permet de dire ceci plutôt que cela.
Alors on va entendre de nouveau un texte de Sextus et puis revenir également, si le temps nous le permet, sur la réfutation sceptique de la réfutation qu'Aristote propose du scepticisme. Écoutez.
Nous disons jusqu'à présent que la fin du sceptique, c'est la tranquillité en matière d'opinion et la modération des affects dans les choses qui s'imposent à nous. Car ayant commencé à philosopher en vue de décider entre les impressions et de saisir lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses, en sorte d'atteindre la tranquillité, il tomba dans le désaccord entre parties de forces égales. Étant incapable de décider, il suspendit son assentiment. Et pour celui qui avait suspendu son assentiment, la tranquillité en matière d'opinion s'ensuivit fortuitement. En effet, celui qui affirme dogmatiquement que telle chose est naturellement bonne ou mauvaise est dans un trouble continuel. Quand il lui manque les choses qu'il considère comme bonnes, il estime qu'il est persécuté par les maux naturels et il court après ce qu'il pense être les biens. Les a-t-il obtenus, il tombe dans des troubles plus nombreux du fait qu'il est dans une exaltation sans raison ni mesure et que, craignant un changement, il fait tout pour ne pas perdre ce qui lui semble être des biens. Mais celui qui ne détermine rien sur les biens et les maux selon la nature ne fuit ni ne recherche rien fébrilement. C'est pourquoi il est tranquille.
En fait, Il est arrivé au sceptique ce qu'on raconte du peintre Appel. On dit que celui-ci, alors qu'il peignait un cheval et voulait imiter dans sa peinture l'écume de l'animal, était si loin du but qu'il renonça et lança sur la peinture l'éponge à laquelle il essuyait les couleurs de son pinceau. Or, quand elle l'atteignit, elle produisit une imitation de l'écume du cheval. Les sceptiques, donc, espéraient aussi acquérir la tranquillité en tranchant face à l'irrégularité des choses qui apparaissent et qui sont pensées, et, étant incapables de faire cela, ils suspendirent leur assentiment. Mais quand ils eurent suspendu leur assentiment, la tranquillité s'ensuivit fortuitement, comme l'ombre suit un corps. Guillaume dit, deux choses sont à remarquer dans ce texte, extrait là encore des esquisses pyrrhoniennes de Sextus Empiricus. Deux choses qui me semblent importantes. Dites-moi votre avis. D'abord, il y a la double occurrence de fortuitement, qui signifie que la tranquillité n'est pas un effet immédiat comme contenu dans sa cause, n'est pas un effet obligatoire de la suspension du jugement. C'est une chance. C'est un effet du hasard. Il faut quand même revenir là-dessus, hein, sur ce bon hasard. Et avant cela, juste un point. Donc, la tranquillité s'ensuivit fortuitement, comme l'ombre suit un corps. Or ça, pour le coup, ça n'est pas un hasard. Il n'y a pas d'ombre sans corps, il n'y a pas de corps sans ombre. Donc comment concilier à la fois, j'allais dire, cette espèce de causalité improbable qui va de la suspension du jugement à la tranquillité de l'âme, et en même temps le fait que la comparaison qu'il illustre, elle, témoigne d'une nécessité.
Alors je crois qu'il faut interpréter différemment la volonté de Sextus, ce qu'il a en tête par ces images. L'idée de fortuitement, en fait, tukikos en grec, donc par chance vraiment, c'est le fait que c'est un résultat inattendu qui n'était pas prévisible. Ce qui était prévisible, normalement, c'était justement d'acquérir la tranquillité, parce qu'on avait déterminé ce qui était vrai, ce qui était les biens naturels, et également ce qui était faux. Donc en pouvant trancher face à l'irrégularité, l'anomalie des choses. Donc ça, c'est le premier point. C'est un peu ce que le fait de trouver parfois quelque chose qu'on ne cherche pas. Là, ce n'est pas vraiment ça. On cherche la tranquillité, et au moment où on croit ne plus pouvoir la trouver, par chance, on la trouve. C'est le premier point. Le second, c'est l'immédiateté, je pense, qui est tout simplement exprimé par l'idée de l'ombre qui suit le corps. Ce que Sextus veut dire, c'est que c'est immédiatement après avoir suspendu l'assentiment, aussi vite que l'ombre suit le corps, que la tranquillité a suivi la suspension de l'assentiment.
Donc c'est aussi vite que l'ombre suit le corps et non pas nécessairement.
Voilà. C'est l'idée qu'il a en tête, à mon avis, clairement.
Quand nous disons, dit Sextus Empiricus, que le sceptique n'a pas de conviction, nous n'employons pas conviction comme certains dans le sens général selon lequel approuver quelque chose est une conviction, car le sceptique donne son assentiment aux affections nécessaires de l'imagination. Il ne dirait pas, par exemple, quand il fait chaud ou froid, « je crois que je n'ai pas chaud » ou « que je n'ai pas froid ». En parlant de « ne pas avoir de conviction », nous employons plutôt « conviction » comme certains, dans le sens de donner son assentiment à l'un des faits non évidents recherchés par la science. Car le pyrrhonien ne donne son assentiment à rien de non évident. Bien plus, même en utilisant les formules sceptiques à propos des choses non évidentes comme « pas plus » ou « je ne détermine rien » ou l'une des autres formules dont on parlera plus tard, il n'a pas de conviction. Si celui qui a des convictions tient pour existant le fait dont on dit qu'il est convaincu, le sceptique ne soutient pas ces formules comme absolument existantes. De même que la formule « tout est faux » dit qu'elle est, avec le reste, elle-même fausse, tout comme « rien n'est vrai », il suppose que de même, la formule « pas plus » veut dire qu'elle est, avec le reste, elle-même, pas plus. Et pour cette raison, elle se rature elle-même avec le reste. Guillaume dit, vous savez, il y a un livre de Cioran, je ne sais plus lequel, je crois que c'est le Précis de décomposition, qui se termine en disant « Un livre qui, après avoir tout détruit, ne se détruit pas lui-même, nous aura exaspérés en vain. » Est-ce qu'on n'est pas là dans un scepticisme, justement, qui s'en prendrait à lui-même ?
Oui, le sceptique, s'il devient une position ferme et établie, n'est plus du scepticisme.
Donc la cohérence du scepticisme impose son absence d'établissement, son absence de fermeté.
Ou alors, on peut aussi reprendre une image que reprend Sextus, et d'ailleurs que l'on retrouve chez Wittgenstein, c'est celle de l'échelle que l'on a gravie, qu'on jette une fois que l'on a gravi donc, le mur avec cette échelle. On a l'image aussi chez Sextus.
reste le mystère d'un homme qui est monté juché en haut d'un mur et dont on ne sait plus pourquoi il s'y trouve ni comment il a fait pour y arriver.
Ce qui était le but premier.
Alors, que vaut dans ces conditions l'objection d'Aristote, j'avais dit qu'on en parlerait, l'objection d'Aristote dans la métaphysique, qui, parlant finalement du principe de non-contradiction, dit, le principe c'est très simple, hein, il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet et sous le même rapport. Et Aristote dit, alors il y a des philosophes qui réclament une démonstration pour ce principe, mais c'est l'effet de leur ignorance, dit-il, parce que si on démontrait ce principe, il est absolument impossible de tout démontrer, on irait à l'infini, de telle sorte que même ainsi, il n'y aurait pas de démonstration. En somme, l'argument d'Aristote contre les sceptiques, c'est de dire que au principe de toute démonstration, il y a un principe qui ne peut pas être démontré lui-même, sinon la démonstration régresserait à l'infini. Alors, est-ce que cet argument porte juste, vise juste, ou est-ce que c'est une façon, au contraire, de sortir dogmatiquement du scepticisme ?
Alors là, nous sommes dans une question très technique et complexe. Le premier point, c'est que, manifestement, les gens que vise Aristote ne sont pas les sceptiques historiques. En tout cas pas Sextus, évidemment pour des raisons chronologiques évidentes. C'est le premier point. Le sceptique ne remet jamais en cause, n'attaque jamais directement le principe de non-contradiction. Au contraire, c'est vraiment une base de la méthode.
Qui est qu'on ne peut pas être grand et petit en même
voilà.
temps.
Voilà. Bon. Et fait précisément, c'est parce qu'on ne peut pas être grand et petit en même temps, si j'ose dire, que si l'on ne peut pas savoir si c'est grand ou petit, on doit suspendre l'assentiment. Alors ensuite, le problème de la régression à l'infini, là on entre vraiment dans le cœur même des arguments sceptiques. Parce que pour justement faire parvenir le patient, je dirais, à la tranquillité, donc précédemment à la suspension de l'assentiment, le sceptique a des tropes, des modes argumentatifs particuliers. Notamment, il y a un schéma, un mode particulier, qu'on appelle les modes d'Agrippa, du nom de celui qui les aurait inventés, mais on ne sait rien de spécial sur lui, et qui sont cinq modes particuliers qui, en fait, se divisent en deux catégories. Vous avez d'une part deux modes, celui du désaccord, la diaphonia, celui du relatif, qu'on va laisser de côté pour l'instant car en fait Sextus l'utilise très peu. L'idée donc, ce premier mode, c'est un mode qui va, je dirais, demander, enclencher un processus de justification. Autrement dit, si quelqu'un affirme quelque chose, on va lui dire « mais tel autre affirme une chose différente » ou « dans telle circonstance, cette chose est différente » ou bien « moi je te dis, c'est différent ». Et une fois donc que quelqu'un a affirmé quelque chose et que quelqu'un d'autre a affirmé le contraire, celui qui a affirmé la première chose se doit de se justifier. Donc ce premier mode déclenche, enclenche un processus de justification. Et là, le sceptique va tâcher d'enfermer, finalement, son adversaire dans un filet constitué par les trois autres tropes, les trois autres modes, qui sont l'agrégation à l'infini, le cercle vicieux et l'hypothèse arbitraire, finalement. En expliquant que celui qui justifie, donc qui veut se justifier, va donner une autre raison.
Et donc là, il faut des raisons à cette raison.
On reposera la même question. Donc, soit on aura une régression à l'infini, soit on tombera sur une affirmation qui ne sera pas justifiée davantage.
Trop sceptique, pardonnez-moi, je fais juste une parenthèse, trop sceptique que tous les enfants mettent en œuvre quand ils jouent au grand jeu du pourquoi, en interrogeant leurs parents.
Exactement.
Quoi qu'on dise, il y a toujours un pourquoi possible, façon pour un enfant de vérifier d'ailleurs que leurs parents ne savent rien.
Exactement. C'est le côté assez pervers de ce type d'argumentation. Soit il y aura un cercle vicieux, à savoir qu'on utilisera pour justifier une affirmation une raison précédemment donnée. Donc, dans les trois cas, on est, je dirais, mal placé, si je puis dire, et on doit suspendre l'assentiment. Il faut noter que ces arguments-là sont, d'une certaine façon, le calque de nos procédures ordinaires de justification. Quand nous demandons des raisons à quelqu'un, c'est ce que nous faisons précisément. Évidemment, dans la vie courante, je dirais, on s'arrête en général à une raison reconnue comme convaincante par tout le monde. Toute la question est de savoir dans quelle mesure cela est, dans le cadre en tout cas d'une réflexion proprement philosophique, justifiée. Savoir dans quel cas on a le droit, je dirais, de s'arrêter à une raison sans donner des raisons supplémentaires, et dans quel cas on n'en a pas le droit. Et là-dessus, c'est toute la difficulté d'une théorie de la justification. Je signale que très récemment, il y a une quinzaine d'années, un philosophe américain, Robert Fogelin, s'est amusé, je dirais, à examiner, du point de vue donc de ces modes d'argumentation, les théories contemporaines de la justification dans la philosophie contemporaine anglo-saxonne. Et sa conclusion était qu'aucune n'était capable, susceptible, de répondre aux défis lancés par les modes sceptiques.
Parce que derrière ça, il y a aussi la question de la possibilité même d'une discussion qui ne soit pas seulement une conversation. Une discussion comme nous pouvons en avoir une maintenant, Guillaume dit. C'est-à-dire que dans le Gorgias, Socrate dit, donc le dialogue de Platon, le Gorgias, Socrate dit « Moi, je suis quelqu'un qui est content d'être réfuté quand ce qu'il dit est faux ». Et on a là la condition de possibilité d'une discussion qui chemine, qui avance, où les interlocuteurs se font les uns aux autres des concessions. Spectacle d'ailleurs auquel nous n'assistons jamais en démocratie. En particulier, par exemple, dans les débats politiques. On ne verra jamais un débat politique où vous entendrez Olivier Besancenot dire à Xavier Bertrand « Ah, vous m'avez convaincu !» et réciproquement. Ça n'est pas possible, justement, alors que chacun prétend faire usage de la raison. Derrière ça, il y a l'idée de savoir, la question de savoir dans quelle mesure le scepticisme n'interdit pas finalement toute possibilité d'un cheminement discursif, d'une dialectique dans la conversation, en somme d'une conversation qui, cheminant, retrancherait un certain nombre d'arguments qui deviennent caduques, tout simplement pour que deux interlocuteurs puissent progresser dans ce qu'on appelle un débat. Est-ce que le scepticisme ne nous empêche pas tout simplement d'avoir un débat ?
Tout dépend finalement la portée que l'on donne au scepticisme. Tout dépend la manière dont on place la limite entre ce qui relève des domaines sur lesquels le sceptique va faire porter ses arguments et je dirais ses médicaments et le domaine de ceux qui n'en relèvent pas. Les historiens sont très divisés sur le lieu où placer la limite, donc on ne va pas, je dirais, donner la réponse ici. Tout dépend finalement du type de scepticisme. Je serais personnellement tenté, dans les faits, de rapprocher le sceptique pyrrhonien historique du sceptique modéré de Hume, finalement. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas, je dirais, il ne tombe pas sous le coup des objections que vous faites. Si, en revanche, évidemment, on fait du sceptique pyrrhonien historique quelqu'un de beaucoup plus, qui s'attaque à beaucoup plus de comportements, de croyances, d'idées, là, évidemment, le problème se pose en d'autres termes.
Se pose également la question, encore une fois, on va rester dessus, puisque vous parlez de philosophes médecins. La tradition des philosophes médecins est une tradition qui va vraiment de Socrate à Nietzsche et même au-delà. Après, il y a des différences de cure. Nietzsche dira de Socrate que la cure socratique repose sur la castration.
Ce qui est un peu radical.
Ce qui est un peu radical, effectivement. Enfin, peut-être le jugement lui-même, d'ailleurs, est-il radical, hein. C'est le sceptique qui parle, voilà, les deux. Mais c'est une tradition. Mais cette médication, alors on comprend comment un philosophe peut se dire médecin quand il propose à ses patients, c'est-à-dire à ses lecteurs, à ses disciples, un certain nombre de certitudes sur lesquelles ils pourront s'appuyer. Encore une fois, la médication est peut-être plus complexe, plus difficile à obtenir quand on abolit toute forme de certitude, quand ça repose sur la négation de la morale, sur la négation du divin, sur l'abolition de la notion même de divin, comme c'est le cas chez Pyrrhon, sur le sentiment que tout se réduit en apparence et que, au fond, les apparences, n'étant qu'apparences, ne peuvent pas s'opposer entre elles. C'est toujours, si vous voulez, ce passage d'une ontologie, d'un discours sur l'être où finalement on ne peut rien dire de l'être, un discours illusoire, à une façon de conduire son existence, passage qui est décrit comme fortuit chez Sextus Empiricus. Encore une fois, dans quelle mesure cette pharmacopée fonctionne sur celui qui le lit ?
Alors, l'un des gros problèmes que nous avons en un certain sens, c'est que nous n'avons pas toutes les œuvres sceptiques et cet élément-là n'est pas le plus traité dans les œuvres. Ce que nous avons finalement, c'est par exemple chez Pyrrhon des anecdotes sur son comportement et puis chez Sextus, quand même 5 ou 6 siècles plus tard, beaucoup d'arguments, je dirais, pour parvenir à la suspension de l'assentiment. Sachant par ailleurs que le type de scepticisme de Pyrrhon et de Sextus sont assez différents. Alors, sur Pyrrhon, c'est intéressant. Nous avons chez Diogène Laërce, qui décrit sa vie, des anecdotes très divergentes. Nous en avons certaines qui le décrivent précisément comme n'évitant pas les précipices et ses disciples sont là pour l'empêcher de tomber. Bon, manifestement, ce sont des calomnies, je dirais. Bon, il a vécu 90 ans en bonne forme, donc il y a là plutôt l'image que les adversaires de Pyrrhon se faisaient de ce que devrait être son comportement qu'un comportement réel.
Bah, surtout la longévité de Piron, évidemment, désavoue ceux qui considèrent qu'il n'évitait pas les puits.
Exactement.
Difficile de vivre 90 ans.
Tout à fait. Voilà. Et son disciple Timon a aussi vécu 90 ans, donc le scepticisme conserve.
Donc le scepticisme n'est pas sceptique, pratiquement.
Non, il n'est pas sceptique selon l'image qu'en ont les dogmatiques, mais qui n'est pas forcément l'image qu'en ont les sceptiques eux-mêmes. Et d'autres, je dirais, d'autres anecdotes le montrent très différent. Par exemple, toujours chez Diogène, un jour, Piron donc, est dans un bateau, pris dans une tempête, et les membres d'équipage sont particulièrement effrayés, et Piron reste très calme. Et pour, je dirais, les rassurer, leur montrer le bon comportement à suivre, il leur montre un petit cochon qui était sur le bateau et qui mangeait tranquillement sa pâtée, je dirais, insensible précisément à la crainte qui prenait, qui enserrait l'âme des membres d'équipage. On a là précisément un exemple de la cure sceptique. L'insensibilité justement au bien et au mot naturel rend le sceptique serein dans cette situation particulièrement troublée. Et je signale au passage que le terme grec pour serein dans ce contexte, dans ce passage, c'est galénos, qui est de la même famille que galéné, qui veut dire le calme de la mer. Quand on veut parler d'une mer très calme, sans vague, on dit galéné. Et quand on veut parler ici de la sérénité de l'âme du sceptique, on dit galénos.
Oui, qu'on me présente le cochon qui reste calme en cas de naufrage, tout de même, Guillaume dit.
Ça fait partie de Diogène Laërce.
Absolument. Alors, Diogène Laërce, hein, je le signale, hein, les vies et doctrines des philosophes illustres, on le trouve en livre de poche. Donc, c'est la Pochothèque qui publie ça. C'est prodigieux. Hein, on a la biographie d'illustres inconnus, bien souvent, dont Piron. C'est extrêmement drôle, amusant, bien écrit, et c'est une édition qui est tout à fait disponible. Voilà, les vies et doctrines des philosophes illustres. Très bien annoté, notamment par l'ami Jean-François Balaudet. Revenons hein, sur cette question du scepticisme et du calme que le sceptique peut produire, que le sceptique peut provoquer, dans quelle mesure le scepticisme conduit au calme. Tiens, on va entendre une chanson tout de suite, qui peut-être montre comment on peut passer, ou comment le calme est d'abord, justement, l'annonce de la tempête. Dans quelle mesure il y a du calme avant la tempête. Écoutez.
So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above, simple, is caving in. Wow, you never been so nuts about. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, simple, the devil cuts loose, simple, so what's the use? Wow! Of falling in love.
Guillaume Di est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce lundi à l'orée d'une semaine sur le scepticisme. Scepticisme dont on peut penser qu'il ménage un calme qui lui-même précède peut-être une tempête. Restons encore sur la façon dont le sceptique prétend s'exempter de toute perturbation.
Précisément. Il le dit lui-même, quand il a soif, qu'il frissonne. Bon, il a bel et bien soif et frissonne. Mais Ce qu'il a de plus, je dirais, que les gens ordinaires, c'est qu'il n'ajoute pas à cela l'opinion que c'est une situation mauvaise par nature. Et donc, il n'est pas troublé par l'opinion supplémentaire qui le dérangerait. C'est, sur le fond, à peu près de cette façon-là que les stoïciens voient les choses. De façon assez curieuse, nous avons deux philosophies opposées, mais qui ont le même diagnostic sur les causes du trouble et sur la manière, en partie, de le combattre. Les causes du trouble, ce sont les jugements que nous portons sur les choses. Et pour les combattre, il faut soit, pour les stoïciens, avoir les bons jugements sur ce que sont les choses, soit pour les sceptiques, dans ce cas précis, la suspension de l'assentiment qui abolit le jugement que nous portons sur les choses.
Bon, on peut le dire très simplement. De deux choses l'une, soit on est soumis à ce qui nous semble bon ou mauvais pour nous. Si on est soumis à ce qui nous semble bon ou mauvais pour nous, on a l'existence d'une girouette qui recherche ce qui est bon, ou qui est heureux quand ce qui est bon lui arrive, j'en tape le micro, qui est heureux quand ce qui est bon lui arrive et malheureux quand ce qui est mauvais lui arrive. À partir de là, il y a deux possibilités. Soit on érige, ce qui est l'illusion à laquelle Spinoza combat dans l'éthique, l'une des illusions humaines, on érige en bien et en mal ce qui est bon ou mauvais, et on se prend soi-même pour la norme de l'humanité, une norme, on érige son expérience en norme, soit, donc ça c'est un premier travers, soit pour supprimer tout cela, on déclare que finalement rien n'est bon et rien n'est mauvais, et ce serait plutôt ça la position sceptique.
Oui, mais pas forcément dans un sens théorique, c'est plutôt l'idée que justement, si rien n'est bon ou mauvais par nature, les choses peuvent changer, et donc devenir meilleures à l'avenir.
Vous venez de boire un verre d'eau, Guillaume. Oui. Est-ce que le sceptique, si j'ose dire, que vous êtes, considère que c'est bon pour lui?
À partir du moment où il a soif, il suit tout simplement la nécessité des affects, comme le dit Sextus, et il a tout à fait le droit de boire de l'eau, comme un chien après tout qui a soif boira de l'eau.
Je vous laisse
nul besoin d'une théorie derrière pour justifier le fait que je boive si j'ai soif.
On dit souvent que l'erreur, enfin il y a toute une théorie qui considère que l'erreur ne vient pas du corps, ne vient pas des perceptions, mais vient des jugements qui se déposent sur les perceptions. En somme, je ne peux pas me tromper dans ce que je perçois ce que je perçois. Mais je me trompe quand je prends pour une théorie ou pour une vérité ce que je perçois. Est-ce que les sceptiques ne participent pas justement de cette, par exemple, à la façon de Montaigne? Montaigne considère que le corps ne s'égare jamais, que le corps ne se trompe jamais. Nous commençons à nous tromper, dit en substance Montaigne, quand sur les perceptions du corps, nous déposons un jugement qui prétend lui être un jugement de vérité.
Alors le sceptique n'hésitera pas à dire que le miel lui paraît doux, lui paraît avoir une action adoucissante. Quant à savoir si le miel est doux réellement, à savoir sur la base de cette impression et sur la base d'un principe général selon lequel apparence et réalité seraient la même chose, là évidemment il suspend précisément l'assentiment.
Dans le Thé et Tête, c'est un dialogue de Platon, là encore, il y a tout un débat, je crois que c'est sur le vin ou sur le vent, je ne sais plus. On va en parler bientôt dans les chemins d'ailleurs. En somme, prenons l'exemple du vent. Si je dis que le vent est froid... Socrate montre que celui qui le dit se fie à ses impressions, mais que s'il n'a pas la même disposition physiologique, ce qui lui semble froid semblera tiède à un autre, et de sorte que le vent serait simultanément froid et tiède, façon pour Platon de dire qu'il est absurde de se fier à ses impressions.
On retrouve là un des tropes d'Énésidème, justement, donc un prédécesseur de Sextus, que Sextus cite, c'est l'une des méthodes d'argumentation. Une chose qui apparaît chaude à telle personne et froide à telle autre ne peut pas être à la fois en elle-même chaude et froide. Donc, principe de contradiction finalement, qui est là à la base même de la méthode. Donc, soit on trouve un moyen de préférer le jugement de l'un par rapport à l'autre, mais justement, le problème du sceptique est de montrer qu'il n'y a pas de raison de préférer l'un à l'autre, soit on suspend l'assentiment.
Soit on suspend l'assentiment. Est-ce qu'il n'y a pas chez les sceptiques l'idée que... Enfin, chez les sceptiques antiques, l'idée que... parce qu'on pourrait dire, ben, comment font-ils pour atteindre la tranquillité de l'âme alors que, en sceptiques qu'ils sont, ils ne se donnent aucun fondement possible dans leur action. Où trouvent-ils cette tranquillité? Est-ce qu'il n'y a pas l'intuition, j'allais dire presque implicite, que les sceptiques, en somme, vivent avant de penser, qu'il s'agit de vivre avant de penser, qu'au fond, il ne s'agit pas pour la pensée de nous donner des raisons de vivre, mais plutôt pour la vie de nous donner des raisons de penser, que la raison vient toujours après un geste gratuit, une décision gratuite, en somme, l'idée nietzschéenne, bergsonienne, d'une antécédence du geste sur le choix, du choix sur la délibération, de l'existence sur l'essence.
On peut voir un peu les choses comme cela. Je crois qu'il est important de voir finalement ce qui pouvait gêner, d'un point de vue, je dirais, culturel, les sceptiques dans les prétentions des stoïciens ou épicuriens. Finalement, ce que prétendent faire, ce à quoi prétendent arriver les stoïciens et les épicuriens, c'est d'avoir un art de vivre qui soit, donc, qui conduise à la sagesse et au bonheur, qui soit rationnellement démontrable et rationnellement enseignable. Or, finalement, le sceptique, et ce n'est pas un hasard en plus du point de vue, du point de vue chronologique, le sceptique, finalement, évolue davantage dans l'esprit du roman grec. Finalement, si vous prenez les romans grecs donc, de la même époque, par exemple, Héliodore et les Éthiopiques, vous avez donc deux jeunes garçons et une jeune femme qui sont amoureux, qui veulent bien sûr se marier, mais que le destin sépare, qui se trouvent donc perdus dans tout le monde habité, je dirais, de l'époque, dans plein d'aventures, et qui, par hasard, par bonheur, se finissent par être effectivement réunis à la fin, sans qu'ils n'aient rien maîtrisé sur le processus. C'est un peu ça, finalement. Le sceptique ne prétend pas maîtriser le processus. Le destin, quelque part, je dirais, est derrière et fait son œuvre. Et par chance, il se trouve que ça finit bien, je dirais. C'est un peu comme dans la comédie ancienne.
Est-ce qu'on peut parler d'une recherche du bonheur ?
Oui, parce qu'au départ, il est animé par la recherche du bonheur. Comme l'a dit le texte qui a été lu donc précédemment, au départ, il est dans le même état que le dogmatique. Il recherche le bonheur et la tranquillité et il prend le même chemin que le dogmatique. Mais, comme on l'a expliqué précédemment, les choses se passent différemment. Finalement.
Mais reste-t-il dans la recherche du bonheur ?
Oui, je ne crois pas qu'il y ait de raison d'en douter, précisément.
Mais préciser, c'est bien le problème. S'il n'y a pas de raison d'en douter...
Que le sceptique, en tout cas, continue de le rechercher, oui.
Non, mais que d'un point de vue sceptique, il ne soit pas douteux que le bonheur soit préférable au malheur, est-ce que ça n'est pas là contradictoire ?
Oui et non, sauf que, je dirais, l'expérience...
Oui
simplement...
et non, ce n'est pas une réponse. Hein. Allez-y. Une réponse de sceptique, alors, ou de normand ?
Oui ou non, sur une réponse de sceptique, peut-être. Je dirais, en fait, que... L'expérience personnelle nous convainc peut-être que, non pas le bonheur au sens de l'enthousiasme, mais simplement la tranquillité est largement préférable au trouble. Je n'ai pas forcément besoin de réfléchir beaucoup pour me rendre compte qu'être sans trouble est mieux qu'être avec un trouble. Un point important là-dessus aussi, c'est que le sage sceptique, entre guillemets, ou pyrrhonien, ressemble beaucoup au sage stoïcien, épicurien ou autre. C'est quelqu'un qui a une maîtrise de ses passions, qui est tout à fait serein et calme. Donc il y a un modèle culturel derrière que le sceptique ne remet pas en cause. Car après tout, dans sa morale par provision, finalement, dont on a parlé, il suit les lois et les coutumes. Donc là, parmi les coutumes ou je dirais les représentations collectives du monde grec, l'image du sage qui est derrière est bel et bien déterminée et c'est un point sur lequel s'accordent toutes les écoles philosophiques finalement. Le sage est quelqu'un qui utilise sa raison et qui reste quelqu'un de serein, de calme, dans un état d'ataraxie, d'absence de trouble de l'âme.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
Merci Guillaume Dit d'être venu nous voir. Je rappelle que vous avez écrit une thèse sur l'esprit du scepticisme dans l'Antiquité. Je signale également un article à quatre mains sur le traité contre les géomètres de Sextus Empiricus, paru dans la revue Phronesis.
Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
On a parlé de Diogène Laërce. Je signale, je rappelle donc, hein, Diogène Laërce, Les vices et doctrines des philosophes illustres. On trouve ça dans la Pochothèque, les classiques modernes, en livre de poche. Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique ? C'est génial comme livre, ça se trouve en folio essai. Et je vous recommande également la lecture, la fréquentation du Scepticisme, une anthologie de textes par Thomas Benatouil, qu'on trouve en Flammarion dans la collection Corpus.
Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy.
Impossible d'être malheureux quand à 10h50, on retrouve le journal des nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
Qu'est-ce que l'esprit européen ?
Oui, bonjour à tous. On quitte la Grèce pour l'Europe, effectivement. L'Europe, non pas tant comme institution ni comme continent,
la Grèce
mais
est
comme
en Europe,
esprit
Adèle.
Européen. Tout à fait. Disons qu'on dépasse le cadre de la Grèce pour aller dans celui de l'Europe. Alors, qu'est-ce que l'esprit européen ? C'est le titre d'un très bon livre qu'on trouve en ce moment chez Flammarion, dans la collection Champs Essais, dont l'auteur est Lucien Jaume, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lucien Jaume.
Bonjour.
Ce qui est vraiment bien vu dans votre livre, je dois dire, ce qui est très malin, alors je ne sais pas si c'était intentionnel de votre part, mais c'est ce qu'on va voir justement, on va en parler, c'est le fait que c'est le biais, l'angle d'approche qui est le vôtre pour parler, pour réfléchir sur la question de l'Europe. Puisque vous parlez d'esprit européen et non pas d'identité européenne. Alors, on sort d'une longue période où on a entendu énormément parler de l'identité nationale et dont on a bien vu dans ce débat ce qui posait problème, c'était la notion même d'identité. Et là, vous avez choisi justement non pas de parler d'identité européenne, mais d'esprit européen. Alors, pourquoi ?
Oui, esprit européen et également dans le livre, le sens commun européen, c'est-à-dire à la fois un héritage, une tradition et une attitude. Le titre pouvait être en effet « Qu'est-ce que le sens commun européen ?» Mais l'éditeur, je le comprends très bien, préfère « Qu'est-ce que l'esprit européen ?» Pourquoi ne s'agit-il pas d'une identité ? Pourquoi, à mon avis, la question de l'identité européenne est mal formulée ? Parce que dans la définition philosophique que j'essaie de donner de l'esprit européen et du sens commun européen, on voit que la distance à soi de l'individu et la distance à la communauté, à la société, est fondamentale et fondatrice. Le propre de ce sens commun européen, c'est le jeu entre, J-E-U, bien entendu, c'est le jeu entre la liberté et la règle ou la liberté et la loi. Et c'est ce qui permet la fécondité de la règle et la fécondité de la loi, permet aussi à l'individu de n'être pas seulement lui-même et de n'être pas seulement membre de sa communauté. Du coup, il ne peut pas avoir une identité, c'est-à-dire une image arrêtée, fixe et définitive. Le propre de cet esprit européen, dans son histoire et dans sa réalité actuelle, c'est que justement, il ne peut pas fusionner avec une quelconque identité. L'erreur serait colossale. De Montaigne à Alain, en passant par Montesquieu, Madame de Staël et quelques grands auteurs, vous voyez que, selon la formule que Pic de la Mirandole faisait dire à Dieu envers Adam, je ne t'ai pas donné une nature. Aux autres êtres, j'ai donné une définition, des propriétés. Toi, Adam, tu seras ton propre. Le terme latin dit exactement, pas peintre, la traduction au puf est fautive. Tu seras ton propre modeleur et sculpteur.
Voilà, donc en refusant le terme même d'identité, vous insistez sur la dimension, disons, plastique de l'esprit européen. Vous parlez de sens commun, d'esprit européen. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Et notamment, il y a une chose qui est très importante et sur laquelle vous revenez dans votre livre. C'est ce jeu, justement, entre l'individu et la communauté. Et que l'esprit européen est construit, trouve son origine à la fois dans un individualisme et dans un communautarisme, disons.
Je ne vous accorde pas ce dernier terme. Il trouve son ancrage dans le jeu vis-à-vis de la règle ou de la loi, la règle artistique, la règle intellectuelle, la loi politique, vis-à-vis du marché et vis-à-vis de l'opinion. Alors, cela veut dire que non seulement la liberté caractérise l'individu européen, homme et femme, mais aussi l'hétéronomie. Car on insiste beaucoup sur l'autonomie du sujet, l'autonomie de l'individu, on a raison. Mais ce que je montre, c'est que cette autonomie produit de l'hétéronomie.
Par hétéronomie, c'est-à-dire le fait de trouver sa loi en dehors de soi-même, dans un sens extérieur.
Voilà. C'est-à-dire que cette société à laquelle nous contribuons, par tous nos actes, par le langage, par notre vie, etc., revient en retour nous contraindre. Nous contraindre pour le bien, mais nous contraindre éventuellement de façon, assez autoritaire, éventuellement despotique et éventuellement le totalitarisme. Car Hitler fait partie de l'Europe. Car le communisme, dans sa forme la plus dure, fait partie de l'Europe. Marx est un destructeur de l'humanisme européen, mais c'est un Européen, bien entendu. Le national-socialisme, Raymond Aron l'a merveilleusement défini à la fin de son livre « L'homme contre les tyrans », c'est l'alliance de la science, de la bureaucratie et d'une religion, dit-il. Je renvoie à ces pages extraordinaires de Aron que malheureusement il n'a jamais développé « L'homme contre les tyrans ». Après, il s'est uniquement occupé de l'Union soviétique.
Et vous insistez aussi à de nombreuses reprises dans votre livre sur l'importance de la liberté comme étant présente dans la liberté comme étant cette notion, ce concept que l'on retrouve finalement dans les textes de nombreux intellectuels européens que vous citez ici, dont vous présentez les textes à la fin de l'ouvrage.
Oui.
Et vous montrez que la liberté finalement c'est ce qu'on trouve, c'est ce sens commun que l'on trouve dès l'humanisme. Et vous accordez une importance extrêmement importante à l'humanisme, comme justement cette pensée de ce que vous appelez cette pensée de la formation.
Oui, la Bildung, la formation de soi. L'humanisme, et spécialement l'humanisme italien, est pour moi la matrice de ce que nous sommes encore aujourd'hui, à savoir la question de la formation de soi. Tout d'abord, la formation par l'autorité d'un maître, l'imitation du maître d'abord, donc une conception de la pédagogie fondée sur l'inégalité. Et c'est en imitant, par exemple, en philosophie, quand on fait une dissertation de philosophie, à mon avis, je suis très traditionnel, hélas, c'est en imitant le maître qu'on apprend finalement à oublier et à tuer le maître pour penser par soi-même et en se donnant à soi-même la règle. Eh bien, vous voyez cela dans les théories de la peinture, dans l'humanisme de la Renaissance. Vous voyez cela au Quattrocento. Vous voyez cela ensuite chez, en effet, un certain nombre de théoriciens et d'intellectuels. C'est-à-dire que l'homme, pour être libre, est d'abord sous l'autorité d'un modèle. Et là, il découvre sa capacité créatrice. C'est banal, au fond. Mais il faut le réapprendre pour agir.
Oui, et ça, c'est ce qu'on comprend très bien à lire votre livre, puisque vous insistez sur l'importance de l'éducation pour accéder à cet esprit européen, à le ressaisir et à prendre conscience.
L'éducation dans un sens très large.
Voilà, merci beaucoup, Lucien. Voilà. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de « Qu'est-ce que l'esprit européen ?» qu'on trouve chez Flammarion dans la collection Chants et Essais.
C'est décidément trop court, le journal des chemins. Et alors, qu'avez-vous trouvé sinon, Adèle ?
Sinon, le philosophe Pierre Guénantia, qui est un spécialiste de Descartes, un très bon spécialiste de Descartes d'ailleurs, publie aux éditions Encre Marine 12 études qui portent sur des questions centrales du cartésianisme. Alors, on y trouve des questions qui sont très connues chez Descartes, la question du monde matériel, du sujet humain, la question de l'union de l'âme et du corps, mais aussi des thèmes qui sont moins connus, comme la question du jugement sur les choses politiques, et également les conseils que Descartes donne à la princesse Élisabeth concernant la conduite de la vie. Alors l'intérêt de ce livre, c'est qu'il donne une image d'un Descartes, disons qu'il va contre l'image d'un Descartes systématique et ultra-rationaliste, et il donne une image qui accentue sur la portée pratique de la philosophie de Descartes. C'est donc Descartes, chemin faisant, c'est de Pierre Guénantia, et on trouve ça aux éditions Encre Marine.
Excellent titre, excellente maison d'édition d'ailleurs, la maison d'édition Encre Marine. Vous avez parlé de Pic de la Mirandole tout à l'heure, Lucien. Je renvoie l'auditeur au discours sur la dignité de l'homme dans l'édition fautive donc des presses universitaires de France.
Il y en a une autre.
Il y en a une autre. Allez-y, dites laquelle.
La traduction Iversant chez Alors tout d'un coup j'ai un trou.
Bon, c'est pas. Voilà. On la retrouvera en ligne sur notre site internet justement où je renvoie l'auditeur. On se retrouve demain de 10h à 11h pour la suite de cette semaine sur le scepticisme et pour y parler de Montaigne, le prince des sceptiques, en compagnie de quelqu'un qui le connaît très bien, c'est Frédéric Brahami. On se retrouve donc également à toute heure du jour et de la nuit sur Internet. Si vous le souhaitez ou vous attendre, bibliographies et téléchargements, notre site Internet très complet, mis à jour tous les jours par Camille Lugan. À demain donc à 10h, hein. France Culture, dans 5 secondes, il est 10h59.